Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec Chloé Peterman au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Chloé Peterman, vous êtes directrice de l'association Passerelle, qui est organisatrice de ce festival qui va avoir lieu en septembre à la Halle de Dieulefi et qui s'intitule « Les murs ne servent à rien ». C'est un festival qui sera donc du 20 au 22 septembre et il y sera proposé le visionnage de films, des lectures, des conférences, des expositions et aussi donc 3 journées pour penser les migrations. Alors pour vous, Chloé Peterman, avec l'actualité d'aujourd'hui à travers le monde, est-ce que les sujets ou les propositions vont croissante.
Alors effectivement, ça va quand même être une édition du festival un peu particulière, je dirais surtout au niveau national avec la période de la politique qu'on vit. Évidemment que nous, malgré et même peut-être encore plus vu la montée des idées du Rassemblement national, on continue notre travail d'information sur les questions migratoires en essayant d'amener des contenus qui soient des contenus sérieux, qui soient des contenus sourcés, qui soient des contenus où on prend le temps d'expliquer les enjeux et où on essaye de parler migration avec calme, ce qui n'est pas toujours le cas, de nos jours. Après, d'un point de vue mondial, j'imagine que vous avez vu les chiffres du HCR, des personnes déplacées, il y en a de plus en plus, étant donné toutes les crises que le monde vit. Donc voilà, continuer à parler des personnes exilées, de leur parcours, des raisons pour lesquelles elles partent, de comment est-ce qu'on peut construire un meilleur accueil. Voilà, croiser tous ces sujets, croiser aussi les chercheurs avec les acteurs de l'accueil, c'est ce qu'on continue de faire inlassablement, puisque c'est notre 8e édition et qu'on compte bien poursuivre et que le programme, lui, il s'étend de plus en plus. Maintenant, le festival dure 3 jours et on a cette année, ce qui est tout à fait nouveau, une programmation pour les enfants et les pré-ados, en se disant que, il n'était jamais trop tôt pour parler exil, pour parler hospitalité, et pour peut-être semer un peu des graines d'une attitude humaniste face aux personnes qui arrivent.
Avant de continuer, on peut présenter tout autant vous-même, Chloé Peterman, et ainsi que l'association Passerelle. Qu'est-ce qui a motivé cette création ?
Oui, tout à fait. Ce festival, en fait, il existe. On va effectivement faire notre 8e année et il est porté maintenant par l'association Passerelle qui s'est créée, elle, un peu plus tard. Mais on a décidé que c'était bien que cette association porte le festival puisqu'on est une association d'accueil de personnes exilées à Dieulefi. Mais on ne fait pas seulement de l'accueil, on fait aussi tout un travail de réseau avec les autres associations d'accueil, notamment celle du DIWA qu'on connaît bien, les amis de Verchenier, les amis te dit. On essaye de créer aussi des formations chaque année sur les questions d'accueil pour pouvoir ensemble se parler, tous collectifs et associations du territoire, puisqu'on est un peu tous à galérer avec les mêmes questions, chacun dans notre vallée ou chacun dans notre coin. Donc on essaye comme ça de faire du partage aussi de l'interconnaissance, de se former aussi sur des questions comme la position du bénévole social ou que faire face aux violences. Voilà, on essaye de faire fructifier en fait chacun de nos expériences aussi en invitant des formateurs ou des chercheurs à venir nous amener leur savoir. On a bien sûr ce gros projet à Dieulefi de monter une maison accueillante pour personnes exilées, projet qu'on poursuit. C'est un gros projet, donc c'est au long cours. Et puis ce festival qui est un moment à la fois un gros moment d'information, bien sûr, mais qui est aussi un moment où tout le monde se retrouve. Et en ça, c'est assez précieux.
Alors, il sera proposé des projections de films, sans entrer dans le détail forcément. Il y a une programmation de combien de longs métrages ?
Alors, sur le festival, dans la partie adulte, donc qui se passe en bas de la halle, il y a six films documentaires qui vont être projetés, qui sont des films qui vont de 50 minutes à 1h30. Et il y aura deux films qui seront projetés à l'étage, dans la partie programmation pour enfants, qui sont des films d'animation. Un tout petit court-métrage d'animation qui est absolument touchant, un petit film d'animation muet d'ailleurs sur les questions d'hospitalité. Et puis, Interdit aux chiens et aux Italiens, qui a été pas mal projeté, mais c'est encore l'occasion de le voir et d'envoyer vos enfants le voir, ce très beau film d'animation sur l'époque où les personnes migrantes et les personnes exilées qui arrivaient en France étaient les Italiens qui traversaient les Alpes pour venir travailler ici.
Au niveau des longs métrages et pour les adultes, il y a donc six longs métrages, plus ou moins, et avec des thématiques récurrentes, enfin pas des thématiques, mais avec des sujets récurrents autour de l'idée de ce festival.
Alors, nous, en fait, il n'y a pas de thématique précise. L'idée, c'est trouver des contenus qui ont un discours très clair, enfin où on essaye de nous faire comprendre des enjeux et on prend le temps pour ça. Aussi, où on présente des histoires au long cours, c'est-à-dire que on sait très bien comment c'est, hein, les documentaires, que ce soit pour la télé ou pour le cinéma, produire des contenus au très long cours, ça coûte cher, forcément, et les productions ont des fois du mal à suivre. Nous, on essaye de porter des films comme ça qui parlent au très long cours parce que ça permet évidemment de sortir du cliché et de l'image un peu fausse qu'on peut se faire d'une histoire. Donc là, par exemple, je peux peut-être vous parler du film Name Me Lawand, qui est une petite perle, selon moi, cinématographique, qui est l'histoire de Lawand, un petit garçon kurde irakien, oui, qui vient de Kurdistan irakien et qui se trouve être un petit garçon sourd et qui, du coup, dans son pays, évidemment, n'avait aucune prise en charge de son handicap. Il était même exclu de l'école puisque personne ne savait comment faire avec cet enfant sourd. Et du coup, sa famille a migré au Royaume-Uni pour essayer de lui offrir des soins et une éducation adaptée pour essayer de sortir de ce handicap. Et en fait, il est inscrit dans une école où il va apprendre le langage des signes. Et on voit en fait cet enfant qui va s'ouvrir au monde en découvrant le langage. Et du coup, il y a une sorte de mise en abîme. Enfin, pour moi, c'est un film qu'on peut voir à plusieurs niveaux, puisque à la fois cet enfant, il arrive dans son nouveau monde qui est l'Angleterre. Donc, il y a déjà toute la question de l'exil, la nouvelle culture, sa famille qui est projetée là, la langue, énormément de choses. Mais en plus, pour lui, il y a cette question du langage des signes qui fait que c'est la première fois qu'il va pouvoir communiquer avec les gens autour de lui, quoi. C'est un film très, très beau.
À l'image de ce film, et comme pour les autres sélections, est-ce que ce sont des sujets qui sont traités au plus près de la réalité et qui sont peut-être même à la limite du documentaire, ou alors il y a aussi des fictions ?
Alors, on a dans le passé certaines fois présenté des fictions, ça a été assez rare. On avait notamment projeté Méditerranéa au tout début du festival, mais en général, on projette plutôt des films documentaires, effectivement, parce que le documentaire, il a cette force d'entrer effectivement dans les vies des personnes. Après, documentaire ne veut pas dire qu'il n'y a pas de construction cinématographique, hein, évidemment. Donc, par exemple, le film Name Me Lawand, on comprend qu'il est gros travail de scénario, même si ces gens qui sont là ne sont pas des acteurs et c'est bien leur histoire qui nous est racontée. Il y a un gros travail de scénario, mais par exemple, en regard de ce film, je pourrais vous parler d'un film qui s'appelle The Roller, The Fight, The Life. Et ça, c'est un des films que je souhaitais absolument qu'il y ait des choses en lien avec la question palestinienne cette année au vu de la situation. Et ce film, c'est un film beaucoup plus art et essai, je dirais, caméra à l'épaule. Et c'est vraiment un film fait par les personnes concernées. C'est-à-dire que c'est un couple, une jeune femme et un jeune homme qui, lui, est d'origine palestinienne. Il est exilé en Europe. Et sa compagne, cette femme qu'on comprend être finalement sa compagne, souhaite faire un film sur son histoire à lui, à ce jeune homme, mais sur leur histoire aussi à eux deux. Et du coup, il y a toute une question aussi entre eux deux de est-ce qu'on peut se filmer ? Est-ce que tu es d'accord qu'on se filme ? Comment est-ce qu'on va raconter notre histoire ? Et du coup, c'est aussi un film sur qu'est-ce que c'est faire un documentaire sur sa propre vie, en fait. Et là, la question du scénario, elle est aussi intéressante parce qu'il y a quelque chose... c'est du documentaire très, très proche, comme ça, des visages, de la situation. Et en même temps, il y a des moments qui sont très poétiques, presque romancés. C'est un film qui est aussi très, très touchant.
Et ce que je voulais savoir aussi par rapport à la production de ces documentaires, est-ce qu'il y a, puisque vous avez certainement des rapports avec cette branche professionnelle, est-ce qu'il y a des difficultés croissantes aussi à pouvoir produire ces documentaires à l'heure actuelle?
Alors ça, je pourrais pas, ça, j'aurais du mal à vous dire ça, je ne pourrais pas répondre à ça. L'impression que j'ai, c'est qu'il y a quand même eu... Alors moi, c'est une petite impression à ma petite échelle. J'ai l'impression qu'il y a quand même moins de films qui sortent sur les questions de migration. Dans le cadre de la veille que j'effectue pour réaliser la programmation du festival, il y a eu des années où vraiment j'avais tellement de films à voir, il y avait tellement de choses qui sortaient. Je me demande s'il n'y a pas eu un peu un tassement. Mais par contre, je pourrais pas parler en tant que par rapport aux prods sur les difficultés qu'ils ont à produire ces films, mais par contre, certains de ces films atteignent des très grands festivals. Bah là, par exemple, il y a deux films qu'on montre qui étaient dans la programmation du Festival international du film sur les droits humains, qui est ce magnifique festival qui a lieu à Genève. Bon, bah voilà, du coup, c'est des films qui atteignent une certaine visibilité, notamment un de ce compas, il a eu un prix. C'est ça qui m'a permis aussi de hop, le voir apparaître. Je surveille toujours la programmation, notamment de ce festival-là. Et du coup, on va montrer ce film, L'Audition, qui est un film qui se trouve être un film suisse et qui a été, je crois, très peu distribué en France. Donc, c'est une occasion de le voir.
Voilà, ça, c'est la partie cinéma. Peut-être qu'on y reviendra par la suite. Et il y a, pour ce premier soir, le vendredi 20 septembre, il y aura cette ouverture du festival et à 20h10, donc une lecture comme d'autres qui auront lieu pendant ces trois journées. Oui. La forteresse et le poète, donc une lecture par Nadine Despert et vous-même, Chloé Peterman.
Oui. Oui, tout à fait. On est dans les murs, ne sert à rien. On est des amoureux des lectures. Pourquoi? Parce que déjà, c'est très agréable de se faire lire quelque chose. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'adore. Mais aussi parce que c'est un outil super précieux pour faire des focus sur des livres. Puisque quand on est dans une librairie, oui, on va aller vers une couverture qui va nous attirer. On va lire une ou deux pages, et encore si on a la patience. Là, nous, on fait des lectures qui durent maximum 20 minutes. Autour de certains ouvrages et où on fait une sélection d'extraits qui permettent un peu d'extraire le suc du livre. Et la plupart du temps sur le festival, quand on réalise ces lectures, derrière, étant donné qu'on a une magnifique table de livres qu'on réalise avec la librairie Sceaux et Gambade, derrière, les gens achètent souvent le bouquin, on en vend plusieurs exemplaires parce qu'ils ont fait cette petite entrée, ça leur a mis l'eau à la bouche, ça leur a fait comprendre quel était le sujet et aussi quelle était la langue de ce livre, le langage, et ça marche bien. Du coup, là, on a, c'est la deuxième année qu'on produit une lecture pour le festival au sein de Passerelle. Nadine, c'est une membre de notre association, mais qui se trouve être comédienne, et du coup, cette année, on a souhaité mettre en lien essais et poésie. C'est ce qu'on avait déjà fait l'année dernière entre le livre de Michel Agier et des poèmes. Là, c'est avec le livre d'Émilien Bernard, Forteresse Europe, qui est vraiment un livre que je recommande mille fois, qui est un très très bon livre sorti cette année sur la question de ces frontières et de ces murs qui se construisent tout autour de notre vieille Europe pour essayer d'empêcher les personnes exilées d'arriver. Et donc, Émilien Bernard, c'est une enquête journalistique. Il est journaliste pour plusieurs médias et du coup, il a fait une sorte de recueil de ses reportages. C'est plus qu'un recueil de reportages, c'est vraiment une œuvre qu'il a écrite en s'appuyant sur ses différentes expériences sur des points de frontières où les exilés sont bloqués face à l'Europe. Et on a mis ça en regard, du coup, les extraits de La Forteresse Europe alternent avec des extraits, avec des poèmes de Falmarès. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Falmarès, c'est ce jeune homme guinéen arrivé mineur isolé ici en France et qui, sur la route, s'est mis à écrire et qui maintenant est édité chez les plus grands éditeurs français. Il a obtenu le statut ici. Il vit en France et c'est un grand poète. Ses poèmes sont magnifiques. Et on a croisé aussi avec ce long poème, quelques extraits du long poème de Jeanne Bonhamer, L'exil n'a pas d'ombre. Vraiment dans cette idée de mettre de faire une sorte de face-à-face entre oui, nous, Europe, tous les murs, toute la militarisation, toute la high-tech qu'on met en place pour bloquer les personnes. On regarde, quand on lit les poèmes de Falmarès, on comprend bien tout ce qui porte aussi à l'exil et tout cet espoir, tout ce rêve, toute cette beauté en fait que les personnes exilées, elles portent en elles pour arriver jusqu'ici. Donc voilà, lecture à venir voir en ouverture du festival.
Il y a aussi une autre lecture hein, le dimanche 22 à 16h avec des lectures d'extraits de Relier les rives sur les traces des morts. En Méditerranée.
En Méditerranée, oui, tout à fait. C'est une lecture qui sera effectuée par Jean-Marie Fenroll, un comédien qui va travailler pour la première fois avec nous cette année. Alors là, c'est un livre très particulier. Je recommande vraiment aux personnes de venir écouter cet extrait et du coup, la conversation qu'on va avoir ensuite avec un des deux auteurs, Philippe Aufoury. En fait, ce livre, il parle d'une expérience d'accueil très particulière qui a lieu. Alors là, il se trouve que c'est une étude de ce qui se passe à Catane, dans ce qui se passait dans le port de Catane ces dernières années, mais malheureusement, c'est quelque chose qui se passe dans plusieurs ports, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, puisque quand les bateaux d'exilés arrivent, il y a beaucoup de vivants, mais il y a aussi des corps de personnes qui sont décédées en route pour différentes raisons. Qui est en gestion de ces personnes? Comment les identifier? Comment prévenir leur famille? Où doivent-elles être? Comment faire en fait avec ces personnes. Et à Catane, c'est un petit groupe de la Croix-Rouge catanaise qui a commencé à s'organiser. Et en fait, Philippe Aufoury et Carolina Kobelinski, les deux co-auteurs, ils ont, en tant que chercheurs, ils sont anthropologues, ils ont suivi tout ce processus, ils ont fait partie de ce petit groupe et ils ont observé en fait comment tout ça s'est construit, comment ce petit groupe a mis en lien toutes les institutions qui jusque-là ne se parlaient pas forcément pour pouvoir combiner toutes les infos pour essayer au mieux possible essayer d'arriver à une identification des personnes. Donc voilà, c'est un livre qui est pas tout le temps facile, hein, puisque c'est un sujet quand même très dur, mais où il y a une très grande humanité et où c'est vraiment cette question de... Il y a les personnes vivantes qu'on peut accueillir, que beaucoup de fois l'Europe ne veut pas accueillir, mais est-ce que là, c'est des personnes qui sont prises en charge l'idée d'accueillir aussi les personnes mortes et que c'est une forme de résistance et de leur trouver une sépulture digne.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA,
la radio du Diwa,
107.5,
101.7,
FM.
Au début de l'émission, vous parliez aussi de cette notion d'informer les visiteurs, le public. Sur quoi se base cette information? Bien sûr, il y a les personnes qui, de visu, ont vécu des situations, mais est-ce que sur quelle base vous avez ces sources, ces propositions?
Alors nous, les contenus qu'on présente au mur, ils sont issus effectivement des contenus réalisés par les personnes exilées elles-mêmes. C'est pas toujours facile de trouver ces contenus-là, mais ça existe. Il y a maintenant d'ailleurs même des maisons d'édition qui se sont lancées dans vraiment éditer des textes écrits par les personnes exilées elles-mêmes. Il y a des films qui sont faits par les personnes elles-mêmes. Il y a des médias comme Getty News, par exemple, qui sont des médias sur les questions de migration et qui produisent des choses faites par des personnes exilées elles-mêmes, sont des journalistes eux-mêmes ayant eu un parcours d'exil. Mais nous, on s'attache aussi à des contenus réalisés par des journalistes, des photoreporters et beaucoup des chercheurs, puisque l'exigence de la recherche, elle est ce qu'elle est, et c'est hyper précieux de... En fait, voilà, la grande force de la recherche, la plupart du temps, c'est la temporalité, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont travaillé sur un sujet, sur un endroit, sur une problématique, sur un lieu, pendant des mois, voire des années. Donc, c'est comme quand l'an dernier, on a fait venir Stéphane Lecourant avec son livre sur les personnes sans papier. C'est un livre qui est issu de sa thèse. Pendant 8 ans, il a rencontré une quarantaine de personnes sans papier en France avec qui il a fait des entretiens. Donc, je veux dire, c'est une somme d'informations qui, ensuite, au-delà d'être une somme, est infusée par le chercheur lui-même pour en tirer des grandes lignes et pour nous expliquer des choses. Il n'y a pas plus précieux en fait que des rencontres avec des personnes comme ça. Et en plus, ce qu'on essaye de faire, c'est garder cette exigence sur les contenus, mais en faire des choses qui puissent passer aussi au grand public. C'est-à-dire que la conversation, par exemple, Stéphane Le Courant, il n'a pas donné une conférence l'année dernière. Non, on a fait une conversation avec lui, je l'ai interviewé. C'était question-réponse. Et ça permet de faire passer des informations que tout le monde peut comprendre.
Justement, dans ces films proposés, il y a une grande place à la parole également.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un peu une chose aussi de peut-être. Est-ce que vraiment c'est. Je réfléchis en même temps. Est-ce que c'est pas un peu une des marques des films sur les personnes exilées? C'est vrai qu'il y a quelque chose beaucoup de la parole, de l'entretien. Des fois, on dit ça, un film d'entretien ou un film de. Un film de parole. Par exemple, le film L'Audition qu'on passe cette année, c'est clair que c'est un film qui se passe entièrement dans un bâtiment qui se veut. Refaire la situation du service des migrations en Suisse. Donc, c'est comme l'OFPRA pour nous en France. Donc, en fait, ça n'est qu'un film d'entretien entre des personnes requérantes d'asile et des personnes qui instruisent les dossiers de demande d'asile en Suisse. Donc, il y a effectivement certains films qui sont sous ces formes vraiment où il n'y a que de la parole, mais après, il y a aussi des films où il y a une narration, une véritable narration, voire même une intrigue. Le film Naimi Lawant avec le petit garçon kurde, il y a tout l'enjeu de savoir s'ils vont pouvoir rester en Angleterre en fonction de des progrès qu'il fait. Donc, on est pris quand même en haleine de savoir qu'est-ce qui va se passer, que va devenir cette famille. Après, il y a des films dans une toute autre forme, notamment le film Bye Bye Tibériade, bon, qui lui a eu un certain succès dans la presse, qui du coup a été pas mal distribué et qu'on est très content de montrer cette année, où là, on est plus sur un film dans une temporalité lente, avec beaucoup d'images d'archives sur ces quatre générations de femmes d'origine palestinienne et qui est réalisé par la quatrième femme, c'est-à-dire la petite fille, qui nous parle de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, qui sont originaires de Palestine. Et on profite des images d'archives de quand elle était là-bas, quand elle y allait l'été, sa relation à sa mère, sa relation à cette double culture.
Parole toujours avec les conférences que vous proposez, oui. À commencer même avec une mini-conférence juridique. Ce sera samedi à 10h. Il s'agira d'externalisation des frontières, comment les pays d'arrivée font sous-traiter la gestion des mouvements migratoires au pays d'origine ou de transit. Un long titre.
Oui. Un long titre pour expliquer, puisque ce terme d'externalisation des frontières est très souvent utilisé aussi dans la presse. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire externaliser les frontières? Ça va être un peu ça l'idée. Externaliser les frontières, c'est simple, hein, c'est les repousser plus loin, de façon à repousser les personnes qui sont derrière. C'est la façon dont nos pays européens passent des accords avec la Turquie, avec le Liban, avec différents pays, de façon avec le Sénégal, de façon à ce que eux bloquent les exilés sur leur territoire pour les empêcher d'arriver trop près de chez nous et pour empêcher qu'on en ait cette gestion entre guillemets. Donc là, on travaille de nouveau avec Julia Briland. Elle est juriste du droit d'asile. Elle est très investie dans l'accueil des personnes exilées sur Lyon. Et chaque année, on travaille ensemble pour mettre au point deux sujets sur lesquels elle travaille. Et elle crée des conférences juridiques qu'on appelle mini-conférences juridiques parce que c'est des confs qui durent 30 minutes max, à vraiment pas dépasser, et qui se veulent de la vulgarisation de questions juridiques liées aux migrations. Et du coup, il y a cette petite conférence le samedi, plus sur des questions internationales, avec l'idée de l'externalisation. Et il y a une autre conférence d'elle le dimanche, où là, on est plus sur un sujet français. Elle s'intitule « Solidarité, comment distinguer le légal de l'illégal dans nos pratiques d'hospitalité ?» Donc, dans l'idée de faire un peu le distinguo entre ce qu'il est légal de faire. Est-ce qu'on a le droit d'héberger une personne sans papier? Est-ce qu'on a le droit de lui faire passer une frontière? Non, ça, je ne recommande pas. Voilà, ça va être l'idée de ce... Parce qu'on nous pose, quand on est un bénévole ou salarié dans des associations comme ça d'accueil, souvent, moi, j'ai des questions, mais ça, est-ce que vous avez le droit? Donc voilà, ça va être un temps pour mettre un peu tout à plat aussi sur les questions de délit de solidarité.
Des discussions, vous en aviez parlé un peu, ces petits entretiens questions-réponses, oui. Il y en aura plusieurs hein, pendant ces trois journées. Avec samedi 22 à 17h45, avec Romain Petrouchine, qui est psychiatre et pédopsychiatre, et donc qui aborde aussi l'aspect de la précarité, de la migration et de la santé mentale.
Oui, tout à fait. Alors, Romain Petrouchine, c'est quelqu'un qu'on a déjà reçu sur le festival, mais qui était là en tant que discutant. Il avait interviewé Luba Jorgensen à l'époque. Et cette année, on le fait revenir en tant que pédopsychiatre, tout à fait, parce qu'on aime bien faire intervenir des personnes suite au film. Donc là, lui, on va avoir une conversation en regard du film Name Me La One, puisque c'est clairement un film qui concerne les enfants et l'apprentissage du langage et comment on vit l'exil quand on est un enfant et notamment un enfant sourd. Donc on aura une conversation un peu retour sur le film et ensuite. On va déployer la discussion autour de son travail, puisqu'il reçoit en consultation des enfants et des personnes exilées à Lyon.
Il y a aussi un rendez-vous, c'est celui de la présentation du projet Cartodroma par Philippe Dumiovic. Alors, peut-on expliquer ce qu'est cet aspect de projet ?
Alors, Morgane Dujmovic, c'est une chercheuse, géographe, cartographe au CNRS, mais qu'on connaît bien puisqu'elle vit pas loin du territoire drômois et elle a un travail de recherche-action avec notamment les jeunes mineurs isolés qui sont dans nos régions. Mais au-delà de ça, elle a créé cette idée d'une carte interactive qui soit une carte de l'accueil en Drôme. Et donc, en tant que passerelle, on faisait partie des associations qui ont, parce que c'est vraiment de la recherche participative, c'est vraiment l'idée de créer une carte qui puisse informer les personnes exilées ou les personnes solidaires de tout ce qui existe sur le territoire, donc avec plein de petits points en fonction des besoins, les lieux d'accueil, l'endroit où je peux avoir de l'aide sur les questions de langage, sur les questions sociales, sur les questions de santé, etc. Et c'est une carte qui sera interactive. Et du coup, ça va être un peu un moment où cette carte va être lancée et le projet va être présenté à tous pour qu'on puisse comprendre comment l'utiliser et abonder.
Il y a aussi les expositions avec des photographies de deux artistes, Nicolas Rivoire et Grégoire Eloi notamment. Peut-on dire plutôt artiste ou photographe reporter ?
Je pense que pour moi, ce sont des artistes. Ça, c'est toujours très subjectif. Mais Nicolas Rivoire et Grégoire Eloi, c'est deux personnes que j'ai rencontrées dans le Briançonnais, en fait, hein, qui sont investies et qui ont passé beaucoup de temps sur le territoire de Briançon, sur ce lieu de frontière entre l'Italie et la France. Et ils ont tous les deux un regard photographique sur cette région, sur cette zone très particulière, sur cette bande de frontières, puisqu'on pense toujours que les frontières sont des lignes, mais elles sont plutôt des bandes, on peut être dans la frontière. Et Grégoire, lui, c'est quelqu'un qui a un travail photo depuis très très longtemps qui est tourné autour de la question de la montagne. Et donc lui, il a observé, dans le cadre de la grande commande photographique de la Bibliothèque nationale de France, il a observé cette zone-là de Briançon sous cet angle de la montagne, et donc notamment de la maraude et de ces personnes qui viennent en aide aux exilés lorsqu'ils traversent souvent de nuit les Alpes. Et Nicolas, lui, il a un regard qui est plus sur Briançon, la ville de Briançon, cette ville d'accueil, le refuge solidaire, la maison aussi, le squat chez Marcel qui accueille depuis très longtemps des personnes. Donc c'est un regard un peu plus sur... Il y a beaucoup de portraits, c'est beaucoup sur les personnes exilées qui sont là, qui vivent là pour un temps court ou pour un temps beaucoup plus long. Et du coup, c'est une expo où on va mettre en regard ces deux travaux photographiques qui sont deux travaux en noir et blanc.
Et il y a également Monde Migrant qui propose des cartes de Philippe Rekacevic. Donc ce sont des cartes qui permettent de pouvoir rapidement constater ces flux et ces difficultés.
Oui, en fait, le Philippe Rekachevitch, c'est vraiment un peu un de nos invités phares cette année. Hein. C'est un monsieur qui est géographe, cartographe, très connu dans le milieu de la cartographie. C'est lui qui a notamment rédigé coécrit ce très beau livre, La carte radicale. C'est quelqu'un qui a un positionnement très, très particulier sur à quoi sert une carte, une cartographie. Et du coup, il va à la fois présenter cette expo d'une dizaine de cartos dans le lavoir à Diolfi et aussi donner une sorte de performance cartographiée. Et il vient de Norvège exprès à Diolofi. Donc j'invite tout le monde à venir le rencontrer et il a l'air absolument adorable et sympathique, ce qui ne gâche rien. Et du coup, là, pour cette expo, il fait une sélection de cartographies sur les questions migratoires et sur effectivement tous les dispositifs qui sont mis en place pour bloquer les personnes qui veulent venir en direction de nous.
Et pendant le festival également, il y aura un cabinet de poésie, les grands-mères servent à quelque chose, un atelier de fabrication de POF, alors on pourra peut-être définir ce que c'est, et une librairie volante. Alors cet atelier de fabrication, en quoi consiste-t-il?
Alors, ça, c'est une proposition qu'on a eue cette année d'un artiste qui est installé à Pont-de-Barré, donc qui est vraiment tout près de Diolofi, un artiste que je connais depuis longtemps, mais qui, effectivement, ces derniers temps, a monté ce projet des POF. Donc, les POF, ce sont les papier officiellement faux. Donc en fait, il va tenir un petit atelier sur place, sur le festival, où on pourra réaliser au sein du BAFO, le bureau administratif faussement officiel, on pourra réaliser ces faux papiers. Et le tout avec un lasagnographe, une machine qu'il a inventée, qui en fait est une machine à faire des lasagnes avec laquelle il arrive à imprimer sur du papier. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir faire ces papiers officiellement faux. C'est une façon un peu aussi de sortir de sujets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets un peu lourds dans notre festival, puisque c'est la réalité migratoire, elle n'est pas tout le temps, mais pas tout le temps drôle. Et là, c'est chouette d'avoir un temps qui amène un petit peu d'ironie.
Chaque année, les soutiens sont de plus en plus présents
Nombreux.
aussi.
Oui, tout à fait. Oui, on a vraiment la chance d'être soutenu par de l'argent public, par de l'argent d'institutions aussi. Donc la DRAC ethnologique est toujours très très fidèle avec notre festival, la commune de Diolfi, la communauté de communes. Enfin voilà, je ne vais pas forcément tous les citer, mais cette année aussi le partenariat avec Mimesis, qui est ce collectif d'art, d'action et de recherche, l'Institut Convergence Migration qui nous soutient cette année. Donc ça, pour nous, c'est une grande reconnaissance et c'est un soutien très précieux. Le fait que les photos de Grégoire Éloy ont été imprimées, éditées par la Bibliothèque nationale de France, donc on a un partenariat de communication aussi avec eux. C'est chouette, ouais. Ça permet aussi de. Moi, ce qui est évidemment, c'est de l'argent. Hein. Vous vous doutez bien que faire un événement comme celui-là, ça coûte de l'argent, surtout quand la participation est libre à l'entrée. Mais c'est au-delà de ça, c'est aussi des réseaux de communication qui font que, eh ben, peut-être des gens qui ne sont pas intéressés à la question migratoire, par le biais de la photo, hop, ils vont venir à se poser des questions sur mais pourquoi est-ce que ces gens ils arrivent à Briançon, d'où ils viennent, quand est-ce qu'ils ont traversé les Alpes, pourquoi ils arrivent d'Italie. Voilà, c'est aussi parler aux gens à qui on a plus de difficultés à parler et aller vers un public qui soit aussi un grand public.
Pour les infos pratiques, est-ce qu'il y a des données
Alors,
à
tout à
faire?
fait, il y a toutes les infos sur notre site, sur le site de Passerelle. C'est passerelleasso, tout collé.fr. Et du coup, là, on a toutes les pages de Passerelle avec les différentes choses qu'on fait à l'association et avec une page évidemment réservée au festival où on retrouve la programmation qui fait 8 pages dans le détail et toutes les infos pratiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'il faut pour manger sur place. Par contre, voilà, il faut s'organiser pour trouver un petit endroit où dormir si on veut rester les 3 jours, parce que ça vaut le coup de rester les 3 jours.
J'imagine. D'ailleurs, il y a de quoi camper ou
Alors,
se stationner.
il y a plusieurs. On a la chance d'avoir plusieurs campings à Diolfi. Donc, je conseille aux personnes en fait de se rendre sur le site de l'office de tourisme parce qu'il y a une page, l'office de tourisme de Diolfi, la page hébergement est vraiment très bien faite. Donc, on trouve un peu toutes les infos.
Le public qui vient à ce festival, est-ce qu'il a une certaine spécificité ou c'est grand public?
Alors, ce festival, il s'adresse à tout le monde, clairement, mais c'est sûr que nous, on voit bien, il y a beaucoup de gens qui sont des gens investis dans l'accueil. Et ça, c'est très chouette parce que c'est aussi un moment où où on prend du temps, où on regarde des films ensemble, où on se parle, où on fait un point sur ce qu'on fait chacun dans nos assos. Enfin, c'est vraiment un temps humainement qui est très sympa, où on se retrouve pendant les temps de repas, et aussi où on se nourrit où on se nourrit des réflexions des chercheurs, où on se rebooste en fait, où on se regonfle en énergie, parce que c'est pas tout le temps évident d'être un bénévole acteur de l'accueil, de plus en plus d'ailleurs. Mais après, on a aussi, on a de plus en plus effectivement d'acteurs de la recherche, question de migration qui viennent sur le festival, aussi des journalistes qui viennent un peu prendre des idées, rencontrer certains des invités qui sont là, faire des interviews, et puis le grand public, quoi. Les gens qui ont envie de prendre ce temps en fait, de s'informer calmement et sur un temps long sur ces questions dont on nous rabâche tellement de choses parfois fausses ou en tout cas très clichés.
Chloé Peterman, merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné de votre temps pour participer à cette interview.
Avec plaisir.
Et pour annoncer donc Les murs ne servent à rien, nouvelle édition 2024. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à Radio Diwa.
Au revoir.
Au revoir.
Welcome to the melting pot. Dans un monde où chacun prend parti, je suis né au milieu des conflits, là où les balles s'éparpillent. Au lieu de nous sourire, des fois le passé nous répartit. La dissé dans nos acquis, mais pas parce qu'on est bâti. D'ici à la péninsule ibérique, j'ai toujours fait des signes de vie pour le meilleur et non le pire. Se recomposer pour ressouder nos liens, comme les signards de Gorée, comme chez les Amérindiens. De l'Est à l'Ouest, j'ai fait des grèves culturelles, tout comme les rituels qui réunissent les camps en duel. Du Nord au Sud, j'encule la domination, l'irracisation, le racisme que les gens ont. On est tous le produit d'un mélange, le fœtus d'un échange, l'image d'un brassage. Ouais, mesdames et messieurs, bienvenue dans le melting pot. Mon nom c'est métissage, je suis allergique aux xénophobes. À la fin de toute civilisation, l'Afrique berceau de l'humanité. Adam et Ève, parents de toutes les nations. Dans nos cœurs tissons l'amitié, dans son. We need a friend all around the world, noir, jaune, le même sang nous avons. Langage diffère, enlève les barrières, ainsi notre fils sera riche en repères. Musulmans, chrétiens, athées, tout ça on gère. Faisons triompher l'amour une fois encore. Métissa, tissage, seul comme visa, mixité, égalité, partage, vaincra. Truth, mutant, c'est la clé, échange dans le respect, acceptation des croyances et culte, ça le fait. L'exemple, y en a plein, donnons-nous la main. Disons oui pour le brassage dans la paix.
Tout est en lui, pardonne-moi.